Vous écoutez France Culture.
これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la réalisation, François Connac.
Et à la lecture aujourd'hui, Louis Garrel et Guillaume Gallienne. Qu'est-ce qu'un livre ? Une lettre ouverte à l'inconnu qui ne le lira pas. Ainsi vont les essais de Montaigne, ce dialogue à une voix du merveilleux philosophe avec celui qui, pour 5 ans seulement, fut le meilleur des amis, Étienne de la Boétie. Il fallait un tombeau à la mesure de cet homme, c'est le chapitre 28 du livre 1. Un chapitre magnifique, évidemment, une réflexion incarnée sur le lien d'amitié, cet amour sans amour propre. Une façon aussi pour Michel de Montaigne de réactiver une vertu qui n'avait plus droit de citer depuis la victoire du christianisme et l'élection de l'amour comme seule modalité du rapport aux autres. L'amitié, une méchante vertu, une vertu sélective, un amour sans amour propre débarrassé de la jalousie comme de l'universel. Who's that bitch?
Considérant la façon dont est conduit le travail d'un peintre que j'ai à mon service, il m'a pris envie de l'imiter. Il choisit le plus bel endroit et le milieu de chaque mur pour y loger un tableau élaboré avec tout son talent. Et le vide, tout autour, il le remplit de grotesques, c'est-à-dire de peintures bizarres n'ayant d'agrément que dans leur variété et leur étrangeté. Que sont ici aussi, à la vérité, ces essais, sinon des grotesques et des corps monstrueux, formés pièce par pièce, de membres divers, sans forme déterminée, n'ayant d'ordre, de suite et de proportion que fortuit. Dessinit in piscem mulier formosa superne.
C'est le corps d'une belle femme que finit une queue de poisson.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola, petite sirène. Vous allez bien?
Très bien.
Bon.
C'est étrange alors cette façon qu'il a de définir son... Ces essais, comme ça, au milieu des essais, à vrai dire, enfin, pas au milieu, en fait, mais au chapitre 28, sur l'amitié, en les comparant aux grotesques.
Vous avez parlé de milieu, on va revenir sur les grotesques et sur la citation latine. Vous avez parlé de milieu.
Et j'aurais dû peut-être parler de commencement.
Oui, c'est la source.
En le disant, je m'en apercevais.
C'est la source vive des essais, l'amitié qu'il porte à la Boétie. Les essais doivent être lus, à mon sens en tout cas, comme un dialogue à une voix. Le dialogue qu'on entretient avec un mort. La conversation, la longue, infinie, délicieuse, divine conversation que seuls deux amis véritables sont susceptibles d'avoir entre eux. Et à ceci près que l'aîné des deux est mort d'ailleurs, c'est la Boétie. Qu'au fond, le frère aîné est mort et il ne reste de cela que l'homme qui ne fait que se traîner languissant depuis la mort de son ami et qui vient clore 5 années d'amitié qui laissait entendre ou qui laissait augurer du meilleur pour la suite. Cette amitié interrompue, scandaleusement interrompue par la mort, est à l'origine du projet des essais. Ce qui fait toute l'importance de ce chapitre 28, ce n'est pas le milieu, c'est la source. C'est le début, c'est le vrai commencement des essais.
Vous avez dit une amitié qui promettait le meilleur, mais est-ce qu'on peut penser que si de la Boétie n'était pas mort, on n'aurait pas eu les essais du coup?
Oui, enfin avec des si.
Voilà. Bien sûr, voilà, on aurait eu d'autres livres de la Boétie.
On aurait eu d'autres livres de la Boétie. Hein. Si la Boétie n'était pas mort, on aurait eu les livres de la Boétie. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on aurait perdu au change, tant cet homme était doué. Tant cet homme, à en croire Montaigne, tant cet homme dont il ne reste que quelques écrits, des sonnets et le fameux discours de la servitude volontaire.
Écrit entre 16 et 18 ans quand même.
Oui, c'est ça, hein, qu'il a écrit entre 16 et 18 ans, qui est un texte génial de philosophie politique. C'est le Rimbaud de la philosophie, la Boétie. Il a 16 ans et il pond le discours de la servitude volontaire, qui est un texte dont l'ambivalence, le génie, la clairvoyance et la clarté paradoxale déterminent bon nombre de conceptions politiques ou du politique ensuite et après lui. Mais enfin, il n'a que 16 ans quand il l'écrit. Et il a écrit aussi quelques sonnets que Montaigne a cru bon d'inscrire dans les essais. Il s'est interdit de reproduire en revanche le discours de la servitude volontaire, après en avoir eu le projet. Mais on peut imaginer que cet homme eût été le plus grand philosophe de son temps.
Mais justement, quand je voulais parler...
De façon générale, n'ayons pas de regrets, voilà.
Voilà, mais quand je voulais parler du lien entre la mort de la Boétie et des essais, c'était justement pour évoquer une idée de nécessité que Montaigne, enfin, où on peut percevoir une contradiction, puisque quand il parle de grotesque, les grotesques, c'est quelque chose d'assez spontané, lui-même, il dit étrange, sans réel fondement. Donc voilà, c'est cette contradiction que je voulais pointer.
C'est la belle humilité de Montaigne qui ne cesse de présenter son livre comme une farcissure, comme une série de farcissures, comme une addition d'éléments hétéroclites, boursouflés, enflés, gonflés, une sorte de costume d'Arlequin avant l'heure, qui n'a ni queue ni tête. Et pourtant, il y fait constamment là-dedans l'expérience d'une nécessité. Et ça, c'est très intéressant. Le simple fait que les essais... le fait de tenir les essais pour un dialogue entre Montaigne et feu Étienne de la Boétie imprime à ce texte une nécessité que Montaigne semble lui dénier en plein d'endroits des essais. Il n'arrête pas de présenter son livre comme un machin bordélique et aléatoire, alors que c'est un bordel dicté par soit les réponses qu'il imagine, soit ce qu'il a envie de dire à un ami. C'est-à-dire c'est un bordel dicté par l'intuition d'une nécessité. Et on retrouve ici le sens profond peut-être de la spontanéité ou de l'improvisade, comme il le dit, qui est non pas le n'importe quoi, mais au contraire, l'expérience d'une intime nécessité. On en a déjà parlé, et c'est l'évidence, l'improvisation... C'est le contraire du n'importe quoi, puisque l'improvisation, c'est l'épreuve en soi de ce qui ne peut pas ne pas être dit quand on se laisse aller, véritablement. Souvenez-vous des lettres à un jeune poète. Quand un poète plonge en lui-même dans le cœur de sa solitude, qu'est-ce qu'il découvre, selon Rilke ? Des lois. Et c'est en un sens ce que fait Montaigne. Et le paradoxe, c'est que au commencement du chapitre, qui dit le principe, la démarche des essais, c'est-à-dire d'un chapitre qui montre que les essais sont en leur source une déclaration d'amitié, au sens le plus noble et le plus fort et le plus antique du terme. Donc, au principe d'un chapitre qui montre à quel point ça n'est pas par hasard qu'il a écrit les essais et rien de ce qu'il dit n'est en un sens laissé au hasard ou laissé à un autre hasard que celui d'une intuition qui est en réalité l'épreuve d'une nécessité profonde, c'est au début de ce chapitre qu'il se fend d'un élan supplémentaire d'humilité en disant bah non, c'est juste le chaos, c'est juste un chaos de couleurs, l'ornement d'une voilà, un ornement sans fond, sans origine. Or, c'est faux, c'est inexact, il y a une intuition, alors elle est difficilement discible, mais soyons bergsoniens, c'est-à-dire tenons-le pour une intuition que les mots ne peuvent pas cerner, que les mots ne peuvent pas résumer, circonscrire, mais qui est constamment active dans la rédaction des essais. Que cette intuition soit le « que sais-je » qu'il porte comme un étendard, ou bien un rapport au monde attaché à conquérir du doute aux dépens de la vérité, ou à construire du jugement indépendamment de toute valeur, peu importe le nom qu'on donne à cette intuition, le fait est qu'il y a une intuition, il y a un destinataire à l'intérieur d'un livre qu'il ne cesse de présenter comme un bordel constant.
Des enfants au père, c'est plutôt du respect. L'amitié s'entretient par la communication des pensées et celle-ci ne peut se faire entre eux à cause de leur trop grande inégalité et elle nuirait peut-être au devoir naturel. Car toutes les secrètes pensées des pères ne peuvent pas se communiquer aux enfants sans créer entre eux une inconvenante familiarité et d'autre part, les avertissements et les remontrances, qui sont l'un des principaux devoirs de l'amitié, ne pourraient pas s'exercer des enfants au père. Il s'est trouvé des nations où, par coutume, les enfants tuaient leurs pères, et d'autres où les pères tuaient leurs enfants, pour éviter l'entrave qu'ils peuvent quelquefois se faire l'un à l'autre, et naturellement, le sort de l'un dépend de la chute de l'autre. Il s'est trouvé des philosophes pour dédaigner ce lien naturel, témoin Aristippe. comment l'attaquait en lui rappelant l'affection qu'il devait à ses enfants parce qu'ils étaient sortis de lui, il se mit à cracher en disant que cela en était sorti tout aussi bien, que nous engendrions des poux et des vers. Et cet autre, que plus tard que voulait amener à se mettre d'accord avec son frère, déclara « Je ne fais pas plus grand cas de lui parce qu'il est sorti du même trou. »
Pour donc définir un petit peu l'amitié, Montaigne commence par dire ce qui n'est pas l'amitié. Donc un peu en analyste, il va débroussailler, il va évacuer tout ce qui n'est pas l'amitié pour trouver vraiment cette pureté de l'amitié qui lui est...
Oui, il fonctionne par élimination.
Et d'ailleurs, on peut dire que c'est de bonnes méthodes. Pourquoi pas hein. Commencer par dire ce que quelque chose n'est pas, c'est peut-être une façon éventuelle de cerner ce qu'elle est. Quand ça marche. Quand ça marche. Parce que parfois, il arrive qu'on tourne en rond autour de quelque chose qu'on n'arrive pas à définir, un peu comme nous quand on cherche une phrase ou quand on se donne pour but d'atteindre tel paragraphe de tel livre qu'on essaie de commenter et qu'on tourne autour sans y parvenir, si vous voulez. Comme on avait fait avec Cézanne, vous vous souvenez, on avait ramé jusqu'à Cézanne et puis c'était la fin de l'heure. Quand on avait parlé de Merleau-Ponty et de l'œil et l'esprit. Alors ici, qu'est-ce que l'amitié n'est pas ? D'abord, elle n'est pas l'affection filiale. Bon, elle n'est pas l'affection filiale pour des raisons évidentes qui rendent presque le commentaire caduque. Il n'y a rien de plus à dire que ce que dit Montaigne. Toutes les secrètes pensées des pères ne peuvent pas se communiquer aux enfants sans créer entre eux une inconvenante familiarité, effectivement. Et d'autre part, les avertissements et remontrances qui sont l'un des principaux devoirs de l'amitié, ne pourraient pas s'exercer des enfants au père. On imagine mal un père prendre son fils pour confident de ses désirs, et on imagine mal un fils faire la leçon à son père. Or, ces deux éléments, la confidence et la remontrance, étant deux éléments de l'amitié, par définition, il n'y a pas d'amitié possible entre un père et son fils, à moins que les deux n'abjurent leur statut de père et de fils, ce qui semblerait tout à fait saugrenu à Montaigne, qui fait... Et ça, c'est un des génies propres de Montaigne, assez peu de cas officiellement du lien de paternité comme du lien de fraternité, tout en disant que dans sa famille, tout le monde s'entend bien, les frères s'entendent bien, et qu'il a le meilleur des pères. Voilà,
Peut-être aussi parce que justement, c'est un lien. Et que, enfin,
que voulez-vous dire en disant c'est un lien ?
Eh bien.
Qu'on n'a pas le choix.
Voilà, exactement.
Eh oui, bien sûr.
Alors que l'amitié, c'est un acte de liberté, de choisir son ami, de...
Exactement. Ouais. Qu'entendez-vous par un acte de liberté ?
Mais justement, au moment où je le disais, je me rendais compte que...
Qu'est-ce qui ne va pas dans l'expression « acte de liberté » quand vous dites ça ? Pourtant, Montaigne l'emploie à peu près, emploie à peu près la même expression.
C'est peut-être l'acte, je ne sais pas s'il y a vraiment un choix dans l'amitié, c'est ça.
C'est que, est-ce qu'on est libre ou non d'élire un ami ? C'est en tout cas une liberté qui n'est pas le libre arbitre.
Et pourtant, vous l'avez dit, l'amitié est une vertu élitiste.
Ah oui, c'est une élection. Mais de ce point de vue, l'amour aussi. Les deux sont des élections, et comme dirait Jean Kelevitch, des élections massives et indivises. Mais c'est une élection que l'on fait, non pas à son insu, mais en un sens, malgré soi. On n'a pas le choix de ses amis. On ne choisit pas ses amis. C'est une nécessité. C'est une nécessité, mais c'est une nécessité qui a ceci de moins contraignant qu'elle n'est pas inscrite dans un, si j'ose dire, un code génétique ou un arbre généalogique. Voilà, c'est une nécessité qui n'est pas de cet ordre-là, c'est une nécessité du cœur. Et c'est en cela qu'on peut parler d'un acte de liberté, puisqu'il n'y a pas de contrainte objective. La seule contrainte, entre guillemets, qu'on peut éprouver, c'est le sentiment qu'on ne peut pas ne pas aimer celui qu'on aime. Mais ça n'est pas la contrainte du genre « tu aimeras ton père ». Non, on n'est pas obligé d'aimer son père. Voilà, comme dit Montaigne un peu plus bas, « c'est mon fils, c'est mon parent, mais c'est un ours, un méchant et un sot ». Voilà, c'est possible. Et la liberté consiste à reconnaître cela, justement, et à surmonter la nécessité objective de l'amour inscrite dans un arbre généalogique au profit d'un jugement qui, parfois, s'impose envers les gens de sa famille.
Et sans rentrer dans de la casuistique où un frère peut très bien être aussi un ami.
Oui, un frère peut être un ami. Dans le cas de Montaigne, c'est plutôt l'inverse. C'est l'ami qui est choisi comme frère. Mais ici, la fraternité est une fraternité exclusive. Ce n'est pas une polyfraternité, si vous voulez. On peut avoir plusieurs frères et sœurs, mais on n'a qu'un ami. On reviendra d'ailleurs sur ce qu'il appelle la polyphilia, enfin ce que les Grecs et ce que Plutarque appelaient la polyphilia, c'est-à-dire les amitiés multiples et l'impossibilité, au fond, des amitiés multiples. Donc il y a, chez Montaigne, donc une première distinction à faire. Des enfants au père, ce n'est pas l'amitié.
Entre frères, c'est éventuellement l'amitié, disons qu'on peut bien s'entendre, mais c'est une élection là encore contrainte. Donc ça n'est pas non plus l'amitié. Montaigne va plus loin et plus radicalement dans sa démarche quand il parle de, quand il compare à l'amitié l'affection envers les femmes. Et là, il est d'une misogynie tout à fait... Enfin, il n'y a pas de doute. Enfin, c'est une misogynie de son temps. C'est la misogynie de son temps. Hein, puisque pour lui, l'affection envers les femmes, c'est... et il cite Catulle à ce moment-là. Il dit « Nous ne sommes pas inconnus à la déesse qui mêle une douce amertume au souci de l'amour. » En d'autres termes, l'affection envers les femmes est plus actif, plus brûlant et plus âpre. Mais c'est un feu inconsidéré et inconstant, ondoyant et divers, un peu de fièvre, sujet à des accès et à des retours à l'état normal qui ne nous tient que par un coin. Dans l'amitié, il y a une chaleur générale et universelle, au reste égale et tempérée, une chaleur constante et calme qui est toute douceur et délicatesse, qui n'a rien d'âpre et de piquant.
Mais est-ce qu'on ne peut pas penser que cette supériorité de l'amitié, selon Montaigne, ne vient pas d'une méconnaissance de l'amour vrai ?
Vous avez peut-être à cet égard plus d'expérience que Montaigne lui-même. On peut considérer que c'est une méconnaissance de l'amour vrai, c'est-à-dire d'un amour qui n'est pas seulement tributaire du désir physique, qui n'est pas l'ornement vertueux, fastueux, noble, d'un désir strictement reproductif. C'est-à-dire c'est une lecture schopenhauerienne de Montaigne, au fond. Montaigne, avant Schopenhauer, considère que l'amour, ben, c'est le joli nom qu'on a donné au désir de se reproduire ou au désir tout simplement de jouir de quelqu'un. Ou de jouir avec quelqu'un éventuellement. Encore que dans cette perspective, il n'est pas dit que... voilà. On peut considérer ça. On peut considérer que la définition que Montaigne donne de l'amour est ici une définition assez pauvre et une définition assez peu aimante de l'amour lui-même. Car sur quoi repose, chez Montaigne, la différence entre l'amour et l'amitié ? Entendez ici la différence entre l'affection envers les femmes et... l'amitié. Même si Montaigne, on va le voir après, envisage l'homosexualité. Alors, comment ça se passe ? C'est très simple. Aussitôt que l'amour entre dans les limites de l'amitié, dit-il, c'est-à-dire dans l'accord des désirs, il s'évanouit et s'alanguit. La jouissance le perd parce qu'il a une fin corporelle et sujette à la satiété. De l'amitié, au contraire, on jouit à mesure qu'on la désire. Elle ne s'élève, ne s'entretient, ne s'accroît que dans la jouissance parce qu'elle est spirituelle et que l'âme s'affine en la pratiquant. C'est beau, ça.
Donc, au fond, ça serait une différence de durée entre l'amour et l'amitié ?
Oui, une différence de durée. Mais cette différence de durée est la conséquence, l'effet d'une différence de conception. Ou plus exactement, d'une différence plus fondamentale entre l'amour et l'amitié qui, je crois, porte sur la nature même du désir qui meut les deux. De quoi s'agit-il ? En ce qui concerne l'amour, si on écoute ce que dit Montaigne, l'amour a une fin corporelle et sujette à la satiété, en d'autres termes. On peut avoir des sentiments très forts pour quelqu'un, c'est-à-dire un désir très fort de quelqu'un. Et puis, que voulez-vous ? Ce désir s'estompe un peu quand il est satisfait. Bon. Et c'est en cela qu'on peut considérer que c'est une conception de l'amour à courte vue. Parce que considérer au fond que l'amour s'éteint quand le désir se est repu, c'est faire peu de cas du moment où le désir renaît. Et du fait aussi qu'il arrive que deux êtres et de plus en plus envie de faire l'amour à mesure qu'ils font l'amour. Non pas dans l'instant, naturellement, mais un peu plus tard, différemment. Bref, c'est en cela, si vous voulez, que la critique que vous formuliez de la définition montagnienne de l'amour trouve son sens. Parce que c'est une définition, finalement, du désir assez restrictive. C'est le désir pensé comme manque. En gros, l'amour, c'est le désir pensé comme manque. On souffre de ce qu'on ne possède pas. Puis une fois qu'on le possède, on s'ennuie, post-coitum, etc. Bon, donc l'amour est pris dans ce réseau-là. Proust ne dit pas autre chose hein, quand il parle d'amour et de la jalousie et de cette alternative vraiment schopenhauerienne entre la souffrance du manque et l'ennui de la possession. Aimer quelqu'un, c'est vouloir coucher avec. Avoir couché avec, c'est ne plus aimer. Bon, parce qu'on a confondu l'amour et le désir et on a confondu le désir et le manque. Bon, mais alors, en quoi l'amitié s'en distingue ? Eh bien, l'amitié s'en distingue en ce que l'amitié n'est pas désincarnée, mais elle n'est pas soumise au diktat du corps. Et l'amitié est incarnée. C'est une personne que nous aimons. C'est quelqu'un. Elle est même plus incarnée que l'amour, puisqu'un désir pensé comme manque, à la limite, se satisfait de n'importe quel objet. Si vous lisez Épicure ou Lucrèce, vous verrez que Lucrèce ou Épicure disent que la main, il suffit bien, hein, il n'y a pas besoin de quelqu'un, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Ce sont des hygiénistes, au fond. Vous avez cette titillation, ce chatouillement. Bah, écoutez, servez-vous de votre main, débarrassez-vous de cette liqueur qui vous empoisonne. L'amitié, évidemment, n'est pas prise dans ce système-là. De l'amitié, au contraire, on jouit à mesure qu'on la désire. C'est comme la liberté de la presse. Elle ne s'use que si on ne s'en sert pas. Effectivement, dire d'un sentiment qu'on en jouit à mesure qu'on le désire, c'est-à-dire que plus on le désire, plus on l'éprouve, c'est implicitement envisagé, et c'est grandeur de Montaigne, qui, au lieu d'opposer terme à terme deux traditions concurrentes et deux conceptions concurrentes du désir, l'un pensé comme manque, l'autre pensé comme excès, au lieu de les opposer, de souscrire à une des deux définitions aux dépens de l'autre, il fait jouer les deux dans différents registres de l'existence. Le désir pensé comme manque, c'est l'amour, et le désir pensé comme excès, c'est l'amitié.
Mais ça me rappelle la distinction que fait Kant entre le plaisir donné par l'agréable et le sentiment de l'agréable et le sentiment du beau. Il dit que le sentiment d'agréable s'épuise avec la consommation et que le sentiment du beau se renouvelle et s'excite de lui-même, en fait.
Mais vous avez tout à fait raison, me semble-t-il. Et c'est la raison pour laquelle, dans le jugement de goût, dans l'analytique du beau, chez Kant, le jugement de goût est dit désintéressé. Expression qu'on a bien mal comprise, puisque
Nietzsche a fait exprès
de mal la comprendre. Bien sûr, puisque Nietzsche s'en est servi pour dire le grand sagouin de Königsberg, il n'avait pas de corps. D'ailleurs, il avait la poitrine concave. Et il a interprété ce désintéressement comme une forme du désintérêt, au fond. Or, c'est le contraire. Le désintéressement dans le jugement esthétique permet de ne pas être concerné par ce qu'on aime ou par ce qui nous touche. Et n'étant pas concerné par ce qui nous touche, c'est véritablement l'objet qui nous touche, qui nous intéresse. C'est au nom d'un intérêt supérieur, c'est-à-dire un intérêt débarrassé de l'intérêt qu'on y trouve, que le jugement de goût se porte vers quelque chose. C'est un peu comme Tintin. Tintin, quel est le génie des bandes dessinées de Tintin ? C'est un lieu commun de le dire. Jean-Luc Marion va jusqu'à dire de Tintin que c'est le Dasein. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il dit qu'il porte un monde avec lui à chaque fois. Et effectivement, les albums de Tintin ont un décor qui varie considérablement. Pourquoi le décor varie-t-il tellement d'un album à l'autre de Tintin ? Parce que Tintin n'est jamais concerné par les histoires dans lesquelles il rentre. Il y va tantôt parce qu'il est reporter, tantôt parce qu'il est pote avec le capitaine Haddock, tantôt parce qu'il aime bien la Castafiore, tantôt parce que les Dupont sont emprisonnés. Je veux dire, il y a toujours une raison qui n'a rien à voir avec lui. Et son intérêt pour les aventures qu'il s'apprête à vivre est accru par le fait qu'il n'est pas concerné par elles. Et c'est ça le désintéressement kantien. Et ici, effectivement, dans l'amitié, l'amitié, et c'est la grande vertu de l'amitié contenue dans le texte qu'on lira, le fameux « parce que c'était lui, parce que c'était moi », l'amitié est débarrassée d'un autre but que lui-même. Et le parallèle avec Kant est vraiment intéressant, parce que ce que Kant dit de la beauté et de la supériorité de la beauté naturelle sur la beauté artificielle ou sur la beauté artistique, dont on a déjà parlé ici, vient du fait que, au fond, la beauté naturelle exprime une finalité sans fin, que la beauté naturelle n'est pas prise dans le réseau d'un calcul et n'est pas susceptible d'être indexée sur un autre but qu'elle-même. Chez Platon, la recherche du beau est le préalable à la conquête de la vertu, d'une connaissance, du bien, etc. Chez Hegel, l'esthétique est le prélude à une victoire de la religion sur l'art, par exemple, ou de la philosophie sur l'art et de la religion sur la philosophie. Ici, c'est-à-dire chez Montaigne et chez Kant, quand le beau est lu, intégré, perçu dans son désintéressement, il est à lui-même sa propre fin. Ce que Kant dit de la beauté, Montaigne le dit de l'amitié. L'amitié n'a d'autre fin qu'elle-même. Et c'est en cela qu'elle est l'expression d'un désir pensé non plus comme manque, mais comme excès. On en jouit à mesure qu'on la désire. Elle ne s'élève, ne s'entretient, ne s'accroît que dans la jouissance. Parce qu'elle est... Alors, après, les raisons officielles, au fond, que donne Montaigne, c'est-à-dire celles qui ne sont pas implicites dans ce texte, mais celles qui l'avancent, ne sont pas exactement les mêmes. C'est l'avatar, c'est l'effet, c'est la conséquence de ce désintéressement suprême en quoi consiste l'amitié véritable.
Rien n'est plus précieux que l'ami, car l'ami c'est lui, et moi c'est moi. Et c'est en cela que rien n'est plus précieux que lui, parce que je m'intéresse à lui séparément de l'intérêt que je trouve dans son commerce, dans le commerce que j'entretiens avec sa personne. Et alors, que dit-il ? Il dit, l'amitié est spirituelle, et l'âme s'affine en la pratiquant. En quoi l'âme s'affine-t-elle ? Eh bien, dans la mesure où nous n'y sommes pas soumis. C'est une expérience de liberté, l'amitié. De liberté, encore une fois, non pas entendue comme libre-arbitre, mais de liberté comme l'art de marcher dans ses pas, qui est au fond la vraie liberté de Montaigne. Quand je danse, je danse, quand je dors, je dors. On est pleinement le contemporain de soi quand on aime un ami d'une amitié véritable. Et il dit ceci, au-dessus de cette parfaite amitié, ces sentiments momentanés, c'est-à-dire le désir, le stupre, la luxure, le sexe, ces sentiments momentanés ont autrefois trouvé place chez moi, pour ne rien dire de lui qui n'en confesse que trop dans ses vers. Lui, c'est la Boétie. Ainsi, ces deux passions ont fait chez moi la connaissance l'une de l'autre, mais ne sont jamais entrées en comparaison, l'amour et l'amitié. La première, l'amitié, maintenant sa route d'un vol altier et fier, et regardant dédaigneusement l'autre faire ses saillies bien loin au-dessous d'elle.
Il y a une autre distinction que Montaigne opère entre l'amitié et ce qui n'est pas elle, c'est l'homosexualité.
Oui, tout à fait. Enfin, avant l'homosexualité, il y a le mariage. Ben non, mais le mariage n'est pas contradictoire chez Montaigne avec l'homosexualité, d'ailleurs. C'est intéressant de le lire à cette lumière. Sur le mariage, il dit, quant au mariage, outre que c'est un marché qui n'a que l'entrée qui soit libre, sa durée étant obligatoire et imposée, et dépendant d'autres conditions que de notre vouloir, et un marché qui se fait ordinairement à d'autres fins que l'amitié, il y survient divers écheveaux de complications extérieures difficiles à démêler et suffisants pour rompre le fil et troubler le cours d'une vive affection, tandis que dans l'amitié, il n'y a point d'affaires ni de commerce, sauf d'elle-même. Et alors, sur le mariage, je renvoie nos auditeurs au chapitre 30 des essais, intitulé « De la modération », dans lequel Montaigne dit ceci « C'est une liaison religieuse et sainte que le mariage. Voilà pourquoi le plaisir qu'on en tire doit être un plaisir retenu, sérieux et mêlé de quelque sévérité. Ce doit être une volupté quelque peu sage et scrupuleuse. Et parce que sa fin principale est la génération, phrase que ne renierait pas Christine Boutin, il y a des hommes qui se demandent si, lorsque nous sommes sans l'espérance de ce fruit, comme quand les époux sont hors d'âge ou enceintes, il est permis d'en rechercher l'accouplement. C'est un homicide, selon la façon de penser de Platon. Certaines nations, et entre autres la nation mahométane, abominent l'union charnelle avec les femmes enceintes, plusieurs aussi avec celles qui ont leurs règles. Zénobie, allez savoir qui est Zénobie, si c'est une reine de Palmyre, c'est la note en bas de page qui le dit, Zénobie ne recevait son mari que pour un seul assaut. Et cela fait, elle le laissait courir pendant tout le temps où elle concevait, lui donnant ensuite seulement la permission de recommencer. Bel et noble exemple de mariage. C'est dans Montaigne, ça aussi, il faut le dire.
Oui. Passons à cet autre type de liaison.
Et cette autre forme de mariage.
Cette autre forme de mariage que l'homosexualité.
Qu'il appelle la licence des Grecs.
La licence grecque.
Écoutez le texte.
La licence des Grecs, elle est à juste titre abhorrée par nos mœurs. Celle-ci, pour une raison semblable, parce qu'elle comportait, selon leur habitude, une aussi obligatoire disparité d'âge et différence de service entre les amants, ne répondait pas suffisamment non plus à la parfaite union et à l'accord qu'ici nous demandons. Quis est enim iste amor amicitae. Cur neque deformem adolescentem quiscam amat neque formosum senem. Qu'est-ce qu'en effet que cet amour d'amitié ? D'où vient que l'on n'aime pas un adolescent laid ni un beau vieillard ? Car la peinture qu'en fait l'Académie ne me contredira pas si je dis de sa part que cette première folie inspirée par le fils de Vénus au cœur de l'amant, vers l'image de la fleur d'une tendre jeunesse, folie à laquelle, ces Grecs, permettent tous les élans excessifs et passionnés que peut produire une ardeur immodérée, était simplement fondée sur une beauté extérieure et était une imitation de la génération corporelle. Car elle ne pouvait se fonder dans l'esprit qui ne se montrait pas encore, qui était seulement en train de naître avant l'âge où il germe. Si cette folie s'emparait d'un cœur bas, les moyens employés pour séduire, c'était des richesses, des présents, la faveur pour l'accession aux charges honorifiques et telle autre marchandise qu'il réprouve. Si elle tombait dans un cœur plus noble, les moyens étaient nobles de même façon. Leçons philosophiques, instructions pour respecter la religion, obéir aux lois, mourir pour son pays, exemple de vaillance, de sagesse, de justice. L'amant s'appliquait à se faire accepter par l'agrément et la beauté de son âme, celle de son corps étant depuis longtemps fanée et il espérait par cette association mentale établir une entente plus solide et plus durable.
On sent en écoutant Montaigne qu'il a bien pratiqué la lecture des Grecs.
C'est-à-dire ?
Je veux dire que dans Platon, par exemple, l'homosexualité, c'est la norme.
Mais à quel dialogue de Platon fait-il référence ?
Le banquet.
C'est le banquet. C'est le banquet. Et à quel moment du banquet ? Pardon, ça fait un peu interro oral, mais bon.
Socrate et Alcibiade.
Bien sûr, c'est Socrate et Alcibiade. Quand il dit d'ailleurs, qu'est-ce en effet que cet amour d'amitié ? D'où vient que l'on n'aime pas un adolescent laid ni un beau vieillard ? En l'occurrence, l'adolescent est beau et le vieillard, entre guillemets, est très laid. Et Socrate fait tout son miel de sa propre hideur en lui montrant qu'elle est le signe, en vérité, d'une beauté cachée, etc. etc. Bon, par un procédé de contrefaçon, alors là, dont Socrate est familier, qui lui permet de se présenter comme beau parce qu'il est laid. Non, je suis laid, ça prouve que je suis beau à l'intérieur. Bon, si ça marchait comme ça, ce serait merveilleux. Il suffirait d'être laid pour être beau. Ce serait génial. Encore que ce ne serait pas à la portée de tout le monde, mais enfin bon. C'est effectivement... La première chose qui est étonnante quand même dans cette sortie sur l'homosexualité masculine, je n'ai pas le souvenir, peut-être d'ailleurs, que Montaigne en conçoive une autre, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qui est frappant dans cette sortie de Montaigne ? C'est l'extrême bienveillance, au fond. La compréhension qu'il témoigne à l'endroit de l'homosexualité. On a des textes d'une homophobie vertigineuse partout, chez Schopenhauer, Nietzsche, Kant. Mais alors là, un homme qui a écrit longtemps avant eux regarde ça avec douceur. Et je crois, enfin avec douceur, avec compréhension. Et moi, il me semble que cette compréhension de Montaigne, si vous voulez, le Montaigne syréaque sur le mariage, l'est moins sur l'homosexualité. Je ne sais pas ce qu'il dirait du mariage entre hommes, mais il y a vraisemblablement...
Il parle quand même, il dit justement « aborer de nos mœurs ».
Oui, il dit justement, enfin bon, c'est pas grand-chose quand même, hein. c'est une petite concession à l'air du temps, parce que la façon dont il en parle est par ailleurs tout à fait civile et compréhensive. Je veux dire, il y a pire à ses yeux, quoi. Il y a pire à ses yeux. Or, il y a des tas de philosophes aux yeux de qui il n'y a pas pire que l'homosexualité masculine. Or, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? D'où ça lui vient, ça ? Ça lui vient tout simplement de la lecture des Grecs. Et c'est évident, Montaigne est pétri de culture gréco-latine. Il est pétri de culture antique. Et ce chapitre sur l'amitié, je le dis ici de façon non pas incidente, mais je crois que c'est important. Ce chapitre sur l'amitié en est tout entier l'expression, peut-être l'expression la plus aboutie. D'abord parce qu'on retrouve ici comme ailleurs les farcissures chères à Montaigne, les citations dans tous les sens, les textes qu'il a rajoutés, etc., etc., ces citations opportunes en latin. Mais aussi, je crois, parce que dans l'histoire de la pensée de l'amitié, il n'y a rien entre, pour le dire vite, Sénèque et Montaigne. Il y a très peu de choses. Saint Augustin n'aimait pas du tout l'amitié, par exemple. Il y a très peu de choses sur l'amitié entre l'Antiquité et la Renaissance. Et cette béance, cette stupéfiante béance sur un sentiment si important entre les individus, vient peut-être, c'est une hypothèse, du fait que l'amitié, ce n'est pas une vertu chrétienne, Paola. Ça n'est pas une vertu chrétienne puisque c'est une vertu sélective. Donc ça n'est pas, on trouve pas, l'amitié ne trouve pas sa place dans le moindre décalogue. Il n'y a pas de place pour l'amitié dans le christianisme. C'est pas possible puisque il n'y a de place que pour l'amour, ou alors l'amitié entendue comme un dégradé d'amour au fond. Ce qu'elle n'est pas dans l'esprit de Montaigne, une pensée originale, singulière, authentique de l'amitié, c'est-à-dire une pensée qui trouve sa source dans l'Antiquité, c'est-à-dire avant que le christianisme n'impose à nos façons de penser un régime tout à fait différent. Et là, pour le coup, c'est une vraie différence, n'en déplaise à Nietzsche, entre Platon et le christianisme, justement. Cette pensée de l'amitié est une pensée qu'on ne trouve que dans l'Antiquité et qu'on retrouve ensuite, grâce à Montaigne, via Montaigne, dans ce chapitre sublime sur l'homosexualité, dont il fait vraiment une lecture platonicienne. Il s'agit d'élever celui que l'on aime au point... Alors, c'est étonnant parce qu'il parle d'un amour, et c'est en cela qu'il le distingue de l'amitié. Il parle d'un amour, mais c'est un amour dont il reconnaît, parce qu'il a lu le banquet, qu'il élève l'être aimé. Il dit, hein, naissait en l'aimé le désir d'une conception spirituelle par l'entremise d'une beauté spirituelle. Il n'y a pas de meilleur résumé de l'ambition du banquet. Il va même jusqu'à citer le fils de Vénus, c'est-à-dire Eros, dont le banquet nous raconte la naissance mythologique.
Et je me demandais si le désir est incompatible avec l'amitié, puisqu'il l'a, il l'a expliqué sur l'affection pour les femmes.
Le désir au sens l'expression d'un manque.
Oui, il y a une phrase qui m'interpelle, qu'on n'a pas lue, qu'on n'a pas dans les textes, et que je voudrais juste vous lire. Il dit à un moment, « Et certes, sans cela, si une telle relation familière pouvait s'établir, » et il a parlé de sexualité juste avant, « libre et volontaire, où non seulement les âmes auraient cette entière jouissance, mais où les corps aussi auraient part à l'union, où l'homme serait engagé tout entier, il est certain que l'amitié en serait plus pleine et plus complète. »
Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là.
Oui, c'est, moi aussi, elle m'a...
Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, puisque, bon, on s'est posé la question de savoir si, au fond, il n'y avait pas de l'amour entre Montaigne et la Boétie, de l'amour physique. Ce qui, à mon avis, est totalement hors de propos. Mm-hmm. Et dans le même temps, il faut bien reconnaître que, au fond, peut-être ce qu'il dit ici, mais je m'en remets à nos auditeurs, hein, peut-être ce qu'il dit ici, c'est que l'amitié serait avantageusement complétée par le fait de la pratiquer physiquement, au fond. Non pas faire l'amour, mais faire l'amitié. Faire l'amitié, coucher avec ses amis. Au fond, c'est une vraie question. C'est une vraie question. En quoi dit-on que coucher avec ses amis compromet l'amitié ? Parce que ça la fait en basculer sur un autre régime. Mais enfin, on pourrait envisager, et d'ailleurs ça existe, que deux amis couchent ensemble, tranquillement, gentiment, gaiement, joyeusement, sans que cela leur prenne le cœur, sans que cela altère en profondeur la nature solide de leur relation. Au fond, quand deux amis s'interdisent de coucher ensemble au motif qu'ils ne veulent pas entamer leur amitié, ils souscrivent à la différence que fait Montaigne entre l'amour et l'amitié, c'est-à-dire entre ces deux façons de désirer. On peut considérer que, souscrivant à cette différence, eh bien, ils s'abstiennent du péril amoureux, ils préservent leur amitié du péril amoureux. Dans le même temps, ce que laisse entendre ici Montaigne, c'est qu'au fond, un désir physique qui fait ses saillies loin au-dessous du vol altier de l'amitié, ben, n'est peut-être pas contradictoire avec l'amitié dans la mesure où il ne prend pas le pouvoir. Je ne sais pas comment le comprendre autrement.
Eh bien, moi non plus. Alors, sans transition...
Il faut
qu'on parle de cet alexandrin que vous avez mentionné parce que c'était lui, parce que c'était moi. On entend le texte, alors.
Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont que des relations familières nouées par quelques circonstances ou quelque utilité, par le moyen de laquelle nos âmes se tiennent unies. Dans l'amitié dont je parle... Elles s'unissent et se fondent l'une en l'autre dans une union si totale qu'elles effacent la couture qui les a jointes et ne la retrouvent plus. Si l'on me demande avec insistance de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ».
Je parlais d'alexandrin juste avant la lecture. Eh bien, ça me pose le même problème, cet alexandrin, que tous les autres, souvent, c'est que je le trouve lisse. Et on en a tellement parlé, on le cite tellement, que j'éprouve vraiment, sincèrement, une difficulté à m'émerveiller, à dire que oui, je suis tout à fait d'accord.
Ouais.
Voilà.
On est face à cet alexandrin comme face à la Joconde. C'est un alexandrin qui est rendu à la tyrannie du particulier quand on le lit. Alors que c'est la phrase de Montaigne que tout le monde connaît, hein, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Dans l'ordre des phrases qu'on connaît de Montaigne, il y a ça, puis il y a notre grand et glorieux chef-d'œuvre, en gros, c'est de vivre à propos. Il y a parce que c'était lui, parce que c'était moi. Alors, il y a beaucoup de choses, évidemment, là-dedans. Et peut-être qu'on peut tout simplement proposer quelques motifs pour lesquels cette phrase est si belle. D'abord, le thème du « lui et moi ». C'est un thème qui revient fréquemment, qui apparaît, j'en ai compté quatre, à quatre reprises dans le chapitre 28, donc le chapitre sur l'amitié. Il dit à un moment « C'est à la vérité un beau nom et plein d'affection que le nom de frère. Et pour cette raison, nous fîmes sous ce signe notre union, lui et moi. » Première occurrence du « lui et moi ». Deuxième occurrence, c'est quand Montaigne, parlant de la Boétie, dit « Je peux le communiquer sans parjure à celui qui n'est pas un autre, il est moi ». Autre façon de penser ce mélange qu'on va examiner dans le passage entre deux amis entre lesquels s'efface la couture qui semble les avoir joints. Et puis, quand Montaigne dit « Ce n'est pas un point de vue spécial sur l'amitié ni deux, ni trois, ni quatre, ni mille », C'est je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange qui, ayant saisi toute ma volonté, l'amena à se plonger et à se perdre dans la sienne. Qui, ayant saisi toute sa volonté, l'amena à se plonger et à se perdre dans la mienne, avec une faim, avec une ardeur pareille. Je dis perdre, véritablement, nous ne nous réservions rien qui nous fût propre, ni qui fût ou sien, ou mien. Ces quatre occurrences de la propriété, du lui et du moi, du sien et du mien, je crois, permettent d'éclairer un tout petit peu ce passage si clair, pourtant, si clair, dont la difficulté réside justement dans la clarté. Il l'éclaire encore, en quel sens? Quand on lit d'un peu près ce texte, on s'aperçoit qu'il est profondément paradoxal. Bon, il a éliminé tout ce que l'amitié n'était pas. Homosexualité, mariage, paternité, fraternité. Bon, tout ça, c'est pas l'amitié. Bien. Et il en vient au cœur de son sujet. Ce qui, d'ailleurs, contredit le début même du chapitre. Quand il dit le chapitre, ce ne sont que des ornements. C'est un ornement qui repose sur une ligne de force, sur une ligne de conduite, et qui trouve sa source dans l'amitié qu'il porte à son ami défunt. Et de sorte qu'il y a une ligne de force, il y a une règle forte. Et cette règle, on la découvre quand, après avoir éliminé ou après avoir dit tout ce que l'amitié n'était pas, il en vient à dire ce qu'elle est. Et on comprend, quand il dit ce qu'elle est, qu'elle est tout ce qui détermine les essais eux-mêmes. Le livre est tout entier écrit sous le signe de l'amitié. Rien n'est moins chrétien que ce chapitre-là, dans les essais. Montaigne était chrétien d'ailleurs, mais enfin il était chrétien comme on peut être périgourdin, hein, il le dit lui-même. Mais enfin il était chrétien. Alors, que dit-il? Dans l'amitié dont je parle, les relations familières, les acquaintances, etc., etc., s'unissent et se fondent l'une en l'autre, dans une union si totale qu'elles effacent la couture qui les a jointes et ne la retrouvent plus. De sorte que deux amis, eh ben, ils ne se distinguent plus. Il n'y a plus de couture entre les deux. Il n'y a plus de différence. Oh, ce que vous lui dites, c'est comme si vous me le disiez à moi. C'est comme ça, c'est pareil. Je vous pouvez tout dire devant lui. Il n'y a aucun problème. C'est le dépositaire de toutes mes confidences. Donc, il n'y a aucun problème, c'est mon âme. Je n'ai pas l'impression d'éventer un secret quand je lui confie quelque chose, puisque c'est à moi que je le confie en le lui disant. Donc, il n'y a pas de différence entre les amis. Or, au terme de cette couture qui s'efface, la phrase d'après dit quoi? Si l'on me demande avec insistance de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. Alors, cette phrase sublime peut à la fois être comprise, et on va le voir, comme la valorisation de l'amitié au dépens de toute autre chose. C'est-à-dire que l'amitié a cette grande vertu d'être précisément vertueuse. Par définition, la Boétie lui-même définira l'amitié comme vertueuse dans un texte qu'on entendra à la fin de cette émission. Il définit l'amitié comme une grande vertu, au sens où elle est, comme toute vertu, à elle-même sa propre fin. Il n'y a pas d'autre but à l'amitié, comme il n'y a pas ce qu'on disait du beau tout à l'heure. Bon. Et en même temps, cette phrase, avant d'examiner ce qu'elle peut dire de l'amitié comme étant à elle-même sa propre fin, en amont de cela, il y a cet immense paradoxe d'une couture qui s'efface. Et qu'est-ce qu'on retrouve au terme d'un effacement de la couture?
Deux individualités.
Résolument différentes. Lui, moi. Lui, c'est pas moi. Moi, c'est pas lui. Il dit une chose et son contraire. L'amitié, c'est ce truc tellement étrange qui vaut à deux individus d'être totalement transparents l'un pour l'autre, d'unir leurs âmes, le corps de leurs pensées, cette union spirituelle qu'est l'amitié, fait que deux individus vraiment s'oublient eux-mêmes, oublient tout ce qui les sépare au profit d'une véritable communion. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir plusieurs amis dans la vie. Faut choisir. Les friends sur Facebook, c'est pas ça. Il n'y a pas d'amitié hors d'une telle intimité chez Montaigne. Et pourtant, c'est une intimité au terme de laquelle se retrouve une différence. Et on trouve ici le paradoxe qu'on éprouve par exemple quand on examine l'amitié entre Charles et Camus ou entre Lévinas et Blanchot. D'une amitié qui s'affine avec le temps, c'est-à-dire d'une amitié qui gagne en délicatesse, il parle lui-même d'un sentiment délicat, qui gagne en délicatesse avec le temps, c'est-à-dire des amis qui, à mesure qu'ils s'approchent l'un de l'autre, qu'ils se rapprochent l'un de l'autre, à mesure qu'ils se sentent proches l'un de l'autre, font assaut d'amabilité, de délicatesse, d'égard, de différence. Charles et Camus, ce sont « vous voyez jusqu'à la fin ». Lévinas et Blanchot, pareil. Et c'est pas innocent. C'est-à-dire que c'est un mélange d'extraordinaire confiance, d'extrême confiance, et de distance abyssale. Et il y a chez Montaigne ces deux dimensions de l'amitié qui font tout le paradoxe. Et tout ce paradoxe se trouve dans l'ambivalence de cette couture, qui s'efface et qui, en s'effaçant, n'abolit pas la singularité de chacun, mais au contraire, la fait ressurgir. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est d'autant plus extraordinaire que dans le texte de Montaigne, il parle de l'amitié qui l'unit à la Boétie dans les termes mêmes qui qualifient le coup de foudre. « Je ne sais quelle force inexplicable qui vient du destin est la médiatrice de cette union. Nous nous cherchions avant de nous être vus. » Alors, on pourrait entendre cette phrase comme l'indice d'un coup de foudre. On en a déjà parlé. Hein, le type qui vous drague et qui vous dit « on s'est pas déjà vu quelque part ». Celui qui dit ça sort une banalité, un truisme, une connerie, un truc qu'on dit en soirée. Mais, en disant ça, il renvoie à une définition très profonde de l'amour qui est « je vous connais pas, mais je vous reconnais ». C'est vous, ça me saute aux yeux. C'est vous, c'est comme ça, élection massive et indivise. C'est vous, c'est comme ça, je vous reconnais sans vous connaître. J'ai gagné du temps, j'ai abjuré le temps, justement. J'ai reconquis tout le temps passé qui me séparait de vous, dont je découvre rétroactivement qu'il me séparait de la rencontre que je viens de faire avec vous. Tout cela est contenu dans « on s'est pas déjà vu quelque part », dans le banal « on s'est pas déjà vu quelque part ». Alors, on pourrait, à cet égard, rabattre du coup l'amitié sur l'amour et sur le coup de foudre. Mais le coup de foudre de Montaigne, ici, est un coup de foudre intellectuel. Il dit « nous nous cherchions avant de nous être vus ». Or, au début du chapitre sur l'amitié, quand Montaigne parle du discours de la servitude volontaire, il dit, bon, c'est un texte qui a une forme parfaite, mais enfin, c'est pas le meilleur qu'il aurait pu faire, il aurait pu faire mieux, etc., etc. Mais enfin, c'est quand même très bien. Et puis surtout, dit-il, je suis lié par une obligation particulière de reconnaissance à ce traité, parce qu'il a servi d'intermédiaire en nous permettant d'entrer en relation. Il me fut montré, en effet, longtemps avant que j'eusse vu son auteur, mettant ainsi en route cette amitié que nous avons entretenue entre nous, aussi longtemps que Dieu l'a voulu, si complète et si parfaite qu'on n'en lit certainement guère de semblable et que l'on n'en voit aucune trace en usage chez nos contemporains. »
Et qui, du coup, peut continuer après la mort de la Boétie.
Exactement. Le coup de foudre, ici, c'est pas un mystère, c'est pas une énigme. Ça, il trouve son explication dans le fait que Montaigne avait lu le discours de la servitude volontaire avant de rencontrer la Boétie. Et c'est en cela qu'il le reconnaît quand il le voit, parce que la Boétie est largement, sinon davantage d'ailleurs, enfin même plus haut, à la hauteur d'un tel texte, ce texte dont on parlera la semaine prochaine. Et que voulez-vous ? C'est comme la mort. Les gens qui redoutent la mort font comme si perdre la vie était une catastrophe. Mais c'est faire peu de cas du fait qu'avant de vivre, nous ne vivions pas non plus. Et qu'il n'y a en somme aucune différence entre ne plus vivre et ne pas avoir vécu. Que on n'est pas moins mort, ni plus mort, après la vie qu'avant la vie. C'est une folie de s'inquiéter de la mort, dans la mesure où nous avons déjà expérimenté l'inexistence, puisqu'avant d'exister, nous n'existions pas.
Mais avant de ne pas exister, nous n'avions pas existé. Donc on n'avait pas goûté à la vie.
Oui, certes, on n'avait pas goûté à la vie, mais une fois qu'on est mort, le goût qu'on a eu de la vie, on l'a plus.
Oui, mais ce qui effraie les gens au moment de mourir, c'est pas ça.
Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un remède absolu à la mort. Je dis que c'est l'un des arguments pour lutter contre la peur de la mort, et c'est l'un des arguments que Montaigne emploie après Lucrèce, après Épicure, pour le coup, qui consiste à dire, attendez, vous avez peur de mourir, mais avant de vivre, vous faisiez quoi ? Donc, c'est un argument qui existe depuis l'Antiquité, qui a ses limites, comme tout argument sur cette question-là, qui fait peu de cas de l'expérience qu'on peut faire de la mort dans le temps de la vie. Mais ici, sur l'amitié, je connaissais la Boétie avant de le connaître, puis je l'ai connu. Qu'est-ce que je fais après ? Je le connais encore. Je le connais encore et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En un sens, alors, il n'y a pas de problème, sauf que naturellement, la perte de la Boétie est une chose infiniment triste aux yeux de Montaigne. Et le détail de cette perte inscrit les essais sous un sceau tout à fait particulier, qui est le sceau de la mélancolie.
Mais vous voulez déjà aller à la fin, Raphaël, mais il nous reste un peu de temps, donc...
Vous avez raison.
On va en tirer le meilleur parti.
Allons-y.
Et vous avez parlé de la polyphilia... la polyphilia, c'est ça ?
La polyphilia, vous voulez qu'on parle de ça, si vous voulez.
La pluralité d'amitié.
Ouais.
Alors, Montaigne lui consacre un passage.
« Car la parfaite amitié dont je parle est indivisible. Chacun se donne si entièrement à son ami qu'il ne lui reste rien à distribuer ailleurs. » Au contraire même, il est mari de ne pas être double, triple ou quadruple et de ne pas avoir plusieurs âmes et plusieurs volontés pour les apporter toutes à cet unique objet. Les amitiés ordinaires on peut les partager. On peut aimer en celui-ci la beauté, en cet autre la facilité de son caractère, dans un autre la générosité, en celui-là la qualité de père, en cet autre celle de frère, et ainsi du reste. Mais l'amitié dont je parle, qui possède l'âme et la gouverne en toute souveraineté, il est impossible qu'elle soit double.
Il est impossible qu'elle soit double, Montaigne, pardon, finit sur cela, on retrouve la contradiction que vous pointiez tout à l'heure entre lui et moi, deux corps, une âme, et là, il est impossible qu'elle soit double.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que la contradiction vient du fait que la couture s'efface, et au terme de l'effacement, c'est lui et c'est moi. Et dans le même temps, il est impossible qu'elle soit double. Et il parle, hein, une seule âme en deux corps. Il me semble que l'expression est d'Aristote. C'est Montaigne lui-même qui le dit. Hein. C'est Montaigne qui a lu Aristote via Diogène Laërce, beaucoup d'ailleurs. Il dit une seule âme en deux corps selon la très pertinente définition d'Aristote. Alors, effectivement, on peut considérer qu'il y a une contradiction là-dedans. Mais examinons l'expression une seule âme en deux corps et puis l'idée qu'il est impossible qu'elle soit double. Une seule âme en deux corps, c'est l'idée d'une transparence absolue de ces deux amis. Idée qu'on peut trouver contradictoire avec le fait qu'il parle de lui et de moi. Effectivement, je crois qu'il faut maintenir, il faut tenir bon sur cette contradiction. Il ne faut pas essayer de la résoudre. Et c'est en cela qu'il faut retenir la leçon implicite que Montaigne nous adresse au début de son texte en disant farcissure, ornement, etc. C'est-à-dire, quand Montaigne dit « les essais sont une collection de bordel », enfin, c'est une collection bordélique, il laisse entendre qu'il n'y a pas d'ordre et qu'il peut y avoir des contradictions, au fond. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'axe directeur, qu'il n'y a pas de nécessité à ce chaos, mais qu'un tel chaos repose sur la possibilité de défendre simultanément deux conceptions apparemment contradictoires. Et moi, je voudrais qu'on tienne bon sur cette contradiction. Ben, c'est contradictoire. C'est contradictoire. L'amitié, c'est les deux.
Comme on disait la semaine dernière, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens.
Ou qu'à son détriment.
Qu'à son détriment.
Oui, est-ce que c'est une ambiguïté? Je dirais c'est plutôt une ambivalence de l'amitié. Voilà, l'amitié, c'est la différence absolue à l'intérieur d'une transparence totale. C'est une seule âme en deux corps, mais c'est lui et c'est moi. Et voilà, et c'est l'un et l'autre. C'est l'un et l'autre. C'est-à-dire c'est l'un qui n'est qu'un. Et c'est aussi l'un et l'autre, c'est-à-dire l'un et son alter égal, son ami. Alors, que dit-il? Parce que c'est important ici, parce que ça lui permet, cette idée d'une seule âme en deux corps, lui permet de déconstruire la pluralité d'amis, la pluralité d'amitié. Et pour comprendre cela, il faut en revenir à ce que dit Plutarque lui-même, de la polyphilia. Ce que dit Plutarque se trouve dans ses œuvres morales, sur le passage sur la pluralité d'amis. Et en très peu de mots, que dit Plutarque? Il dit que il n'y a pas d'intimité. L'expression est de Dimitri Elmur, qui est un excellent connaisseur des Grecs, plus particulièrement de Platon, des Grecs et des Latins, de l'Antiquité de façon générale. Dimitri Elmur dit ceci: il n'y a pas d'intimité sans épreuve du temps, et pas d'amitié véritable sans mise à l'épreuve de l'autre dans la durée. Or, le temps vécu n'est pas divisible à l'infini. Si le plus grand bonheur de l'amitié réside dans le fait de vivre ensemble et de passer ensemble toutes ces journées, alors les contraintes de la vie commune imposent une restriction évidente au nombre d'amis. Ainsi, l'importance que Plutarque confère au concept d'intimité lui permet-elle d'opposer deux modèles de relations amicales. Le premier, de l'ordre de la sumpexis ou coagulation, le second, de l'ordre du déchirement et de la désunion. En d'autres termes, l'intimité partagée par un très petit nombre d'amis permet l'assimilation progressive des éléments au tout, tandis que la multi-amitié, elle, non seulement ne permet aucun agrégat entre amis, mais provoque le déchirement de chaque âme individuelle, oscillant d'un ami à un autre. On ne peut pas mieux dire. Et on ne peut pas mieux dire pour comprendre de quelle manière il faut éviter cette polyphilia, cette filia qui se complique de son excès en nombre. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas avoir trop d'amis parce qu'on n'a pas le temps. Mais quand on dit qu'on n'a pas le temps, ce n'est pas qu'on n'a pas le temps de s'occuper d'eux. C'est que l'expérience du temps qu'implique cette gémellité bizarre qu'est l'amitié, cette gémellité souveraine qu'est l'amitié, l'expérience du temps n'est pas divisible, n'est pas partageable en un sens. Et c'est ce que Montaigne fait ici valoir. Il y a un lien entre l'unicité de l'âme à l'intérieur de deux corps
et l'impossibilité de la polyphilia. Et les conséquences de ça sont que, et Montaigne peut ainsi résumer son chapitre, les amitiés ordinaires, bah, on peut les partager. Mais les amitiés ordinaires, ce sont des amitiés motivées. Je l'aime parce qu'il est beau. Je l'aime parce qu'il est... il a bon caractère. Je l'aime parce qu'il est généreux. Je l'aime parce que c'est un bon père. Je l'aime parce que c'est un bon frère. Oui, d'accord. Mais je ne l'aime pas parce que c'est lui. Et c'est cette grande différence entre une amitié qui n'a aucune autre raison qu'elle-même et une amitié qui se donne des motifs, dont les motifs ne sont pas que des prétextes mais des causes véritables, qui lui permet, c'est cette différence qu'il établit, qui lui permet de montrer tout simplement que la polyphilia est impossible. Vous pouvez rassembler autour de vous des bons amis, comme on dit, qui ne sont pas des amis. Qui sont des bons amis, parce qu'ils ont telle ou telle qualité ou tel défaut qui vous plaisent. Et on est là pour retrouver une distinction kantienne dans des beautés d'agrément. On n'est pas dans la beauté véritable, on n'est pas dans l'amitié véritable, on est dans des amitiés ornementales, des amitiés agrémentées. Vous voyez comment Montaigne fait jouer cette unicité de l'âme contre la pluralité des amis qui viendraient disloquer l'unicité de l'âme dans les motifs qu'une amitié pourrait se donner. Et quand une amitié se donne des motifs, alors là, pour le coup, l'amitié et l'amour marchent d'un même pas. Parce que quand l'amitié se donne des motifs, ben c'est plus l'amitié. C'est plus l'amitié dont il parle. Ça n'est plus l'amitié véritable, celle dont la perte le laisse inconsolable.
Donc on est tenu, nous aussi, Raphaël, par le temps.
Oui, effectivement. Ce qui ne nous empêche pas d'être amis.
Voilà. Mais oui, donc Montaigne aime, vous l'aurez remarqué, hein, les auditeurs, tous les gens qui ont lu Montaigne, aime à citer des auteurs grecs, latins.
En particulier quand il parle de lui.
Voilà. Ce qui lui permet de se dire encore mieux lui-même. Et particulièrement les poètes comme Horace, qu'on va entendre maintenant. Et puis après Horace, il fait entendre quelqu'un qu'il aime encore plus. C'est la Boétie.
Ô malheureux que je suis, mon frère, de t'avoir perdu. Avec toi se sont évanouies du même coup toutes nos joies que ta douce amitié entretenait dans la vie. En mourant, tu as brisé tout mon bonheur, mon frère. Avec toi, notre âme tout entière est descendue au tombeau. Et depuis ta mort, j'ai chassé de mon cœur mes chères études et tout ce qui faisait les délices de ma vie. Ne te parlerai-je plus ? N'entendrai-je plus jamais ta voix ? Ne te verrai-je plus jamais, désormais, frère qui m'était plus cher que la vie? Du moins, je t'aimerai toujours. Mais écoutons un peu parler ce garçon de 16 ans.
L'amitié, c'est un nom sacré, c'est une chose sainte. Elle ne naît jamais qu'entre gens de bien et ne vient qu'avec une mutuelle estime. Elle ne s'entretient non pas tant par des bienfaits que par une vie vertueuse. Ce qui rend un ami assuré de l'autre, c'est la connaissance qu'il a de son intégrité. Les cautions qu'il en a, ce sont son caractère bon, la foi et la constance. Il ne peut y avoir d'amitié là où se trouve la cruauté, là où se trouve la déloyauté, là où se trouve l'injustice. De sorte qu'entre les méchants, quand ils s'assemblent, c'est un complot, non pas une compagnie. Ils ne s'entraiment pas, mais ils s'entrecraignent. Ils ne sont pas amis, mais ils sont complices.
Si tu passes un jour par Sarlat, Toulouse, Lambesque et Soulages, sûr que tu penseras un peu à moi. Malgré l'absence et en dépit de l'âge.
Merci Paola et merci à vous chers auditeurs. C'est un bonheur de vous retrouver tous. François Connac à la réalisation, Alice Ramon bien sûr, Philippe Palares à la technique. Et à la lecture des textes aujourd'hui, Guillaume Gallienne en Montaigne et Louis Garrel en La Boétie, rien de moins.
Parce que... c'était moi, pour pouvoir dire une fois, comme Montaigne à la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi.
Guillaume Gallienne et Louis Garrel, dont vous entendrez de nouveau la voix la semaine prochaine, puisque l'émission de dimanche prochain prolonge en un sens celle que vous venez d'entendre. Après l'amitié, c'est de servitude volontaire que nous parlerons, ce traité fabuleux rédigé d'une main géniale par un adolescent de 16 ans, Étienne de la Boétie. Comment se fait-il que tant d'hommes choisissent de se soumettre à un seul? Y aurait-il des tyrans s'il n'y avait pas d'esclaves? Quelle forme prend la servitude volontaire en démocratie? Autant de questions que nous poserons la semaine prochaine dans Le Gai Savoir, qui reprend heureusement du service pour vous jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà, fini le carême, les affaires frivoles reprennent à dimanche prochain. Pour l'heure, il est 17h sur France Culture, dans un instant, Ali Rebéi.